Dans le livre de Job, cette petite série, le livre de Job nous enseigne. Et au chapitre 1, Job, au chapitre 1, je vais prendre avec moi, nous lisons un commentaire qui relate, qui donne un état de fait concernant Job. Et ce constat est le suivant: cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Voilà un beau constat d'un homme intègre, droit, qui se détourne du mal. Mais ça va bien plus loin puisque Dieu lui-même va mettre la droiture de Job à l'honneur. Parce qu'il y a Satan qui vient comme ça et puis Dieu lui dit, en fait, hop, hop, et mon serviteur Job. Et au verset 8, l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Alors, voilà, je crois, un homme qui mérite d'être observé attentivement pour être imité. Souvent, on parle de Job dans tel qu'on l'a fait déjà dans tout son parcours vis-à-vis de la souffrance, les épreuves et son cheminement intérieur pour se rapprocher encore plus près de Dieu. Mais j'aimerais ce matin qu'on observe quel homme était Job dans sa droiture. Parce que si Dieu l'a lui-même mis à l'honneur et l'a pointé du doigt à Satan en disant, hey, tu l'as vu, il n'y a personne comme lui sur la terre. Eh bien, je crois que vraiment, on mérite de l'observer davantage pour voir quel homme c'était et pour pouvoir en tirer des leçons et pour pouvoir l'imiter. Alors, ce matin, on va parcourir un petit peu le livre de Job et on va pour cela, pour pas être perdu, suivre le PowerPoint qui va être projeté autant sur Zoom qu'ici. C'est pas très très gros, mais je vais le lire en même temps et puis ceux qui ont des bons yeux y arriveront. Un homme pieux qui choisit la volonté de Dieu avant la sienne. Voilà quel type d'homme était Job. Au chapitre 23, versets 11 et 12, il dit: mon pied s'est attaché à ses pas, j'ai gardé sa voie et je ne m'en suis point détourné, je n'ai point abandonné les commandements de ses lèvres, j'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Et cette dernière expression est magnifique, hein? J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Voilà quel genre d'homme Job était. Un homme qui aimait Dieu, qui s'est attaché à Dieu, qui suivait ses commandements et qui avait choisi la volonté de Dieu plutôt que la sienne. Ça vous fait penser à quelqu'un? Vous faites penser à Jésus-Christ, hein? Toutefois, non pas ce que je veux moi, mais ce que tu veux toi. Nous sommes invités à ressembler à Job. Est-ce que nous plions notre volonté? Parce qu'on aimerait ceci, on aimerait aller cela. Lorsque la volonté de Dieu vient au-dessus et dit, ah non, non, moi c'est ça que je veux. Et Seigneur, si c'est ce que toi tu veux, si c'est ce que tu me dis, eh bien je fais plier ma volonté à la tienne. Deuxième diapo. Ça sert à rien d'agrandir. Je pense que. Voilà, un homme qui prie Et veille à prier dans la paix. Job est un homme pieux qui aime Dieu qui passe du temps avec Dieu. Et c'est un homme qui prie. On le verra tout à l'heure, il prie même pour ses enfants, etc. Il prie. Bon, est-ce qu'on prie? Est-ce que nous sommes des hommes et des femmes qui prient? Et puis, au-delà de ça, c'est même une prière qui est pure. Le texte nous dit, je n'ai commis aucune violence et ma prière fut toujours pure. Ça nous fait penser au Nouveau Testament que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. On peut parfois prier avec colère, avec indignation, avec irritation, avec amertume. Et notre prière, finalement, ne se fait pas dans la paix. Et pour la paix, eh bien Job était un homme qui priait et dont la prière se faisait dans la paix et pour la paix, y compris vis-à-vis de ses ennemis, chapitre 31, verset 30, on le reverra à une autre occasion, mais c'était à propos de ses ennemis, et il disait, moi qui n'ai pas permis à ma langue de pécher de demander sa mort avec imprécation à son ennemi, hein, la mort de son ennemi. Il dit voilà, moi quand je prie et que j'ai des gens qui me font du tort, eh ben ma prière reste le lieu de la paix et n'est pas un lieu où voilà, je demande qu'il lui arrive du mal et des malheurs et que la une prière toujours pure. Diapo suivante, un homme qui écoute sa conscience, qui guide sa conscience et qui revient sur ses fautes pour les régler. Chapitre 13, verset 26, il dit à Dieu, pourquoi m'infliger d'amères souffrances, me punir pour des fautes de jeunesse? Et on entend là que, oui, dans son parcours, Job se dit, oui, j'ai pas forcément été dans toute ma vie parfaitement droit à tous les niveaux. J'ai appris de mes erreurs, j'ai évolué vers plus de sainteté. Et au chapitre 27, verset 6, il dit « Mon cœur ne me fait de reproches sur aucun de mes jours ». Ça nous fait penser à Paul qui dit « Moi, j'agis et je veille à garder une conscience pure ». Et Paul rajoute, c'est pas parce que ma conscience ne me fait pas de reproches que je suis pur et que je suis pas coupable. En tout cas, autant que ma conscience m'éclaire et je veille vraiment à écouter ma conscience, à l'aiguiser ma conscience, ben, en toute conscience, j'ai la conscience pure. Ça veut pas dire que je n'ai pas péché, mais en tout cas, ma conscience ne me le montre pas. Et Job était quelqu'un qui écoutait sa conscience, qui aiguisait sa conscience. Et quand il dit « mon cœur ne me fait pas de reproche », c'est pas une parole rapide et facile. Non, non. Nous avons affaire à un homme de Dieu qui vraiment cherche à vivre en conscience. Et c'est un modèle pour nous. Qu'est-ce qu'on fait de notre conscience? Est-ce qu'on a une conscience pure? Est-ce qu'on tient une conscience pure? Est-ce que nous sommes capables de revenir sur des fautes, même des fautes de jeunesse, des fautes anciennes, s'il faut pour les régler et dire « Seigneur, il y a 20 ans, j'ai eu tel comportement, j'ai eu telle chose, je te demande pardon et je veux le régler. S'il y a quelqu'un que j'ai offensé, je vais faire ce que tu me demandes de faire. » Job est quelqu'un qui règle les choses et qui vit avec une conscience pure, en gardant une conscience pure, en réglant ce qu'il faut régler. La diapo suivante. Hein. C'est un homme qui ne met pas de masque pour se faire passer pour quelqu'un de bien. Le verset nous dit, « Si comme les hommes, j'ai caché mes transgressions et renfermé mes iniquités dans mon sein parce que j'avais peur de la multitude, parce que je craignais le mépris des familles, me tenant à l'écart, osant franchir ma porte. » Là, il exprime, Dire voilà, j'ai un double visage, vous voyez. Il y a le vrai, alors le vrai Adrien, par exemple, qui est entre ces quatre murs, que peut-être ses proches et ses intimes connaissent un petit peu dans ses défauts, dans ses péchés. Mais à l'extérieur de ces murs-là, tout va bien, tout est nickel, rien ne sort, rien ne transpire. Peut-être c'est même au-delà. C'est-à-dire que je cache des transgressions, je donne une image, mais la réalité est tout autre et je mets un masque. Eh bien, ce masque, pour se faire passer aux yeux des autres, parce qu'on aurait honte quelque part, parce qu'on ne serait pas à l'aise, si les gens nous connaissaient vraiment. Mais je crois que nous devrions marcher comme si les gens nous connaissaient vraiment. Comme si les gens pouvaient vraiment voir au-delà de nos murs. Nous savons que le Seigneur, lui, voit tout et voit au-delà des murs. Mais quelque part, nous nous inquiétons plus des hommes que du Seigneur. Nous avons plus peur de l'opprobre, de ce que les gens penseraient de nous s'ils savaient vraiment qui nous sommes, que ce que Dieu pense de nous. Bien, nous devrions vraiment vivre dans le secret et dans l'intimité, comme si c'était en plein jour, parce qu'un jour, les choses seront mises un jour en lumière. Eh bien, Job n'avait pas cette double face. Il veillait à vivre dans le secret comme dans la lumière. Et pas un comportement dans l'un et un comportement dans l'autre. Diapo suivante, on voit un homme qui ne prend pas les revers de fortune comme une excuse pour être moins juste. Ça, c'est lorsqu'il est atteint dans ses richesses, dans la mort de ses enfants, avant que Dieu ne permette à Satan de toucher sa santé et son corps. Eh bien, voilà des revers de fortune. Et à ce moment-là, Job, se jetant par terre, il se prosterna. Dans les revers de fortune, l'attitude de Job, c'est de se tourner vers Dieu, c'est de se prosterner. Et Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu, il demeura ferme dans son intégrité. Voilà quel homme nous avons. Et si nous nous regardons nous-mêmes, est-ce que souvent, il ne nous arrive pas que quand quelque chose ne va pas comme nous voulons, nous sommes contrariés, nous avons une souffrance, nous avons peut-être une maladie, une perte financière, etc. Et là, tout d'un coup, c'est comme ça. Et là, tout d'un coup, il y a un peu du flottement et notre vie est moins pure. On se permet, comme une espèce de vengeance, comme une espèce de réaction, de lâcher un petit peu d'intégrité parce que on est vexé, on est contrarié et quelque part le péché est là pour nous remonter le moral en quelque sorte comme une compensation. Ah ben là il m'est arrivé une épreuve, un revers de fortune, et ben quelque part je vais compenser ça par moins de pureté, moins de piété, moins de sainteté. Souvent c'est comme ça qu'on réagit. Les revers de fortune et les malheurs nous font vite glisser de la sainteté. Et on s'en fait une excuse facile. Même à l'intérieur de nous, on a une sorte de raisonnement où on excuse un petit peu de relâchement et de péché parfois. Ben parce qu'il m'arrive ça et que je suis malheureux. Que... Ça n'avait qu'à pas m'arriver, voilà. Et quelque part, c'est presque comme si on disait ben, « bien fait pour Dieu, il ne m'a pas gardé de ça, ben moi, je vais être un peu moins simple. » Job n'agissait pas comme ça. On passe à la suite. On a vu un homme pieux, un homme qui s'attache à Dieu, un homme qui honore Dieu, un homme qui règle même ses fautes de jeunesse. Et bien voilà un homme qui fait connaître Dieu dans son foyer et qui parle au cœur des siens. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Job appelait et sanctifiait ses fils, après qu'ils aient mangé et bu et fait la fête ensemble en famille, entre frères et sœurs, puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste, car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché, ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. Il prenait soin que dans son foyer, on connaisse Dieu, qu'on se tienne devant Dieu sanctifié. Et que peut-être on règle ce qu'il y a à régler, il dit peut-être dans leur cœur, ils ont péché. Est-ce que dans nos foyers, vis-à-vis de nos enfants, est-ce qu'on fait connaître Dieu? Est-ce qu'on parle au cœur des nôtres? J'ai mis un deuxième verset où il reprend sa femme. Sa femme lui dit « Maudit Dieu et meurt !» Puisque le voilà touché dans sa santé. Il a tout perdu. Et elle craque et elle dit « Mais si c'est comme ça, de toute façon, Dieu, maudit Dieu et meurt. » Et il lui répond, il la corrige, il rectifie le tir, il parle à son cœur, il dit « Non, tu parles comme une femme insensée. Quoi, nous recevons de Dieu le bien, nous ne recevrions pas aussi le mal. » Et dans son foyer, il est un petit peu comme un phare spirituel qui oriente dans ses enfants que lorsqu'on part dans une direction un peu dangereuse, un peu tordue, erronée, il corrige. Et il dit à sa femme, non, là tu es hors de sens, tu es pas dans ce qui est construit, dans ce qui est juste, dans ce qui a du sens. Et il invite à revenir sur le bon chemin. Il parle au cœur des siens. Est-ce que nous parlons au cœur de ceux que Dieu nous a donnés, couple, enfants, parents, famille? Faire connaître Dieu dans son foyer et parler au cœur des siens. On va voir maintenant plusieurs aspects moraux de la droiture de Job. Diapo suivante, un homme qui refuse de mentir, de voler, de tromper et de tricher. Tout à l'heure, notre frère nous a donné un témoignage à cet égard. Et bien voilà, le genre d'homme que Job était. Il dit, si j'ai marché dans le mensonge, si mon pied a couru vers la fraude, est-ce que je fraude? Je mens? Est-ce que je trompe? Est-ce que je vole quelque part? Eh bien, Job était un homme qui refusait, dans ses relations professionnelles, dans sa vie familiale, dans son voisinage, dans tout ça, il refusait de passer par le fait de cacher la vérité, de mentir, de tromper ou de tricher. De l'honnêteté. Est-ce que nous ne sommes pas parfois tentés par ces choses-là? Tronquer un peu la vérité, mentir un peu, tricher un peu, et puis... Oui! La droiture de Job. Et c'est beau de voir un homme qui résister contre ça. Et nous sommes invités à faire de même. La chose suivante. Un homme qui ne se tourne pas vers les porte-bonheurs et les croyances superstitieuses. Alors, voyez-vous, dans la vie, souvent, on veut prospérer. Et évidemment, pour prospérer, un des vecteurs souvent empruntés, c'est la fraude, c'est la malhonnêteté qui précédait. Hein. On triche un peu, on s'enrichit, on trompe un peu. Le commerce, on ne dit pas toujours la vérité. Voilà. Une deuxième manière de se dire, je vais mettre toutes les chances de mon côté pour être prospère et riche, ben, c'est de mettre toutes les chances de mon côté, y compris des porte-bonheurs et des superstitions et des croyances, ou ici, le culte de Baal et d'Astarté. Alors, le soleil, si j'ai regardé le soleil qui brillait, la lune, quand elle s'avançait majestueuse, si mon cœur s'est laissé séduire en secret, et il me manque une partie de verset, pardon, au verset 27, 31, 27, je crois que c'est si j'ai mis ma main sur ma bouche, alors Job 31, verset 27, si mon cœur s'est laissé séduire en secret, si ma main s'est portée sur ma bouche. Alors, c'est un petit peu obscur ce verset. Alors, en nota bene, j'ai mis, voilà, le soleil, nous sommes dans un milieu sémitique et il y a le culte de Baal, le dieu du soleil, le dieu de la fertilité des sols, de la prospérité, des pluies, des moissons, de l'orage, etc. Baal, on le prie pour avoir de bonnes récoltes, pour être prospère, pour devenir riche, quoi. Et il y a certainement bien des superstitions, et si je fais ceci, si je fais cela, ça va me porter bonheur, ça va me porter chance. Vous en connaissez des superstitions comme ça? Hein? Toucher du bois, voilà. Etc. Tout ce genre de pratiques. Et puis, la lune, j'ai mis que donc l'épouse de Baal était Astarté, ou Asherah, la déesse de la lune, dont le nom signifie l'heureuse, celle qui porte bonheur. Et donc, lorsqu'il dit si ma main s'est portée à ma bouche, littéralement, c'est si ça veut dire embrasser. C'est voilà, il y a la lune, il y a le soleil. Je fais ce geste de vénérer, d'embrasser. C'est de l'idolâtrie. On parle là d'idolâtrie ou d'allégeance. En tout cas, on se met dans des pratiques un petit peu occulte, un petit peu particulière, superstitieuse ou religieuse, ou vraiment carrément un vrai culte religieux bien établi. Il y a différents degrés. Notre horoscope, un petit porte-bonheur, mes parents m'ont offert ce collier, je le garde parce qu'il me porte chance, il me protège. Vous voyez, des tas de manières où, en fait, on renie Dieu. C'est le verset qui part, qui suit. Notre confiance et notre espoir et notre espérance n'est pas en Dieu seul et le seul Dieu, mais dans des petites combines et des arrangements un petit peu superstitieux. Eh bien, Job ne s'est pas tourné vers ça. Il a été droit. Il n'a pas été, entre guillemets, mangé à tous les râteliers comme certains. On pouvait essayer de mettre tous les dieux de son côté. On mange à tous les râteliers religieux et superstitieux. On contemple tout le monde comme ça, on prospère. C'était pas l'attitude de Job. Et justement, la diapo suivante nous montre un homme. Ah oui, alors il est riche, hein. Mais un homme qui se tient loin de l'amour de l'argent. Et ça, c'est fondamental. Le Nouveau Testament nous dit « L'amour de l'argent est une racine de toutes sortes de maux. Quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. » Et il dit « Mais si j'ai mis dans l'or ma confiance, si j'ai dit « Alors, tu es mon espoir !» Si je me suis réjoui de la grandeur de mes biens, de la quantité des richesses que j'avais acquises, eh bien non, Job n'a pas fait ça. Il s'est tenu en garde contre l'amour de l'argent, les possessions matérielles, l'orgueil qu'il en tire, la confiance et le sentiment de sécurité, la quête de toujours plus. Quel est notre rapport à l'argent ? Aux possessions. Jésus a dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Le cœur des Job, il était avec Dieu. On continue. Je ne m'arrête pas sur chaque chose parce qu'il y en a beaucoup. Hein. C'est un survol. Un homme, ah, ça c'est fondamental. Un homme, donc on est dans vraiment le caractère moral de Job. Il se refuse à mentir, voler, tricher, combiner. Il se refuse, il n'y a pas d'amour de l'argent. Et là, un homme qui a résolu très fermement de vivre la pureté sexuelle, même dans ses pensées. C'est un des rares passages bibliques où on voit un homme qui, en fait, a mis en œuvre des barrières avec lui-même. On le voit avec Daniel pour la nourriture, hein. Daniel résolu de ne pas se souiller avec les mets délicats du roi. Et nous voyons ici un homme qui a fait un pacte avec ses yeux. J'avais fait un pacte avec mes yeux et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. Quelle part Dieu m'eût-il réservé d'en haut? Quel héritage de Tout-Puissant m'eût-il envoyé? Et puis il continue. Si mon cœur a été séduit par une femme, si je fais le guet à la porte de mon prochain. Et puis un autre verset qui n'est pas exclusivement dans le domaine sexuel. Mais si mon pas s'est détourné du droit chemin, si mon cœur a suivi mes yeux, souvent le cœur des hommes suit leurs yeux. Si quelque souillure s'est attachée à mes mains, le mot souillure, c'est vraiment la tare, c'est vraiment celle que ce qu'on va commettre et que rien n'effacera de toute une vie. Ça sera indélébile. C'est le sens du mot ici. Ça peut être un attouchement sexuel, ça peut être un viol, ça peut être un adultère, ça peut être aussi un meurtre et d'autres choses. Ce n'est pas réservé ici au domaine sexuel, mais ça en fait partie. Et Job, ben il est comme tout le monde, il est fait de chair et d'os. Et ne croyons pas que de manière naturelle, comme ça, il était insensible au charme de toute une chacune. En plus, il avait de l'argent. Paye qui veut. Tout le monde tombe amoureux de lui. Il a de l'argent. C'est pas comme ça que ça marche. Eh bien, il a dit, mais moi j'ai une femme. Dieu a fait un homme et une femme pour vivre ensemble jusqu'à la mort. Je ne vais pas aller voir la femme d'un autre, ni même une autre vierge. J'ai déjà mon épouse et elle me suffit. Et j'en suis heureux. Mais en même temps, très jeune, certainement, il a fait un pacte avec ses yeux. C'est-à-dire que vraiment, le pacte, c'est le contrat, c'est l'alliance. De dire, ben voilà, moi, je me refuse même à poser mes regards. Vous savez, il y a plein de gens qui vous disent, comment est-ce qu'ils disent regarder, c'est pas tromper. C'est ça? Vous voyez, c'est un peu, je profite visuellement, mais, voilà. Il n'est pas là-dedans, Job. Et pour ne pas être là-dedans, et on ne peut pas dire qu'il n'est pas là-dedans parce que ça ne lui vient pas à l'esprit ou à la pensée, ou ça ne l'attire pas du tout, c'est parce qu'il a pris une résolution. Il a fait un pacte, il a pris une décision ferme en disant, moi je me mets des barrières. Et pas ici que j'ai prêché cet été sur ça, mais le piège de la sexualité est l'un des pires que Satan ait mis. Et l'apôtre Paul dira « Quelque autre péché qu'un homme commette, celui-ci est hors du corps, mais celui qui pratique le péché sexuel pêche contre son propre corps. » Et il dit « Fuyez, fuyez, fuyez la débauche. » Ben Job est un homme qui a résolu très fermement de vivre la pureté sexuelle, même dans ses pensées. Et on parle là du fait d'arrêter ses regards sur une vierge et peut-être de fantasmer, d'y penser. Voilà, c'est ce que Jésus appelait. Il dit « Ben moi, je vous dis que celui qui regarde une femme pour la convoiter, a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Il avait de l'avance, hein, Job, sur les paroles de Jésus. Hein. Mais c'est incroyable. Job est un homme vraiment qui avait de l'avance. À plein de niveaux, on va continuer de le voir. Mais c'est normal, il n'y avait pas un homme comme lui sur la terre. Hein. On va continuer. Un homme qui prend ses responsabilités et qui prend soin de ceux qui dépendent de lui. Il dit, voilà, c'est des gens de ma tente. Donc ma tente, c'est vraiment... Ma tante, c'est ma maison, c'est là où je suis responsable, c'est les gens qui dépendent de moi. Alors, c'était un propriétaire terrien, il avait des ouvriers, il avait des gens, c'était un patron. Il dit, moi, tous les gens qui sont sous, quelque part, sous, qui dépendent de moi, d'une manière ou d'une autre, ben, il y en a pas un qui manque de viande. Hein. Il y en a pas un qui peut dire, j'ai pas eu du solide, quoi. C'était la soupe aux cailloux. Mais sans tout ce qu'on a rajouté après. Non? C'est quelqu'un qui veille et qui prend soin de tout ce qui dépend de lui et qui prend ses responsabilités. Qui a ce cœur pour prendre soin et assumer ses responsabilités. La suite. Ça s'étend hors de sa tente. C'est pas que dans sa tente, c'est aussi pour ceux qui viennent de l'étranger, qui sont voyageurs de l'extérieur. Si l'étranger passait la nuit dehors, si je n'ouvrais pas ma porte aux voyageurs, dit-il, qu'il m'arrive ceci, qu'il m'arrive cela, hein, c'est la suite. Voilà, on voit là que Job était quelqu'un qui pratiquait l'hospitalité. Et le Nouveau Testament nous le dit, n'oubliez pas l'hospitalité. Quelques-uns même ont reçu des anges. Nous devons ouvrir nos maisons, nos cœurs, et être ouverts vers ces voyageurs, vers ceux de l'extérieur, pour accueillir. Job accueillir. La suite. Alors, on a parlé du fait qu'il prenait soin de ceux qui dépendaient de lui, qu'il avait le cœur pour les voyageurs, ceux qui arrivaient, mais voilà un homme sensible à la misère qui met la main à la poche pour soulager la misère et qui investit de sa personne. Ça fait partie des passages les plus forts qui concernent Job. Vraiment quelqu'un qui n'est pas dur et froid et égoïste et personnel, mais qui va aller vers celui qui souffre et vers le malheureux. On le lit, si j'ai refusé aux pauvres ce qu'ils demandaient, si j'ai fait languir les yeux de la veuve, si j'ai mangé seul mon pain, vous voyez cet égoïsme, sans que l'orphelin en eût sa part. Moi qui l'ai dès ma jeunesse élevé comme un père, c'est là que je dis, et qui investit de sa personne, c'est pas juste qu'il met la main à la poche. Allez, je fais un chèque, telle association, je paye. Non. Il s'implique personnellement. Voilà un orphelin. Bien, finalement, il va le mettre dans son cercle intime. Et il dit, moi, qu'il est, dès ma jeunesse, élevé comme un père. C'est pas juste, j'ai signé les chèques, mais je l'ai élevé. Il n'a pas de figure paternelle. J'en ai été une pour lui. J'ai été la figure paternelle qui lui manquait parce qu'il était orphelin. C'est beau, n'est-ce pas? Si j'ai vu le malheureux manquer de vêtements, l'indigent n'avoir point de couverture sans que ses reins m'aient béni, sans qu'il ait été réchauffé par la toison de mes agneaux. Voilà, il usait de ses biens, il mettait la main à la poche pour soulager la misère qu'il voyait autour de lui. Nous sommes invités à la même chose. Voilà la droiture de Job, ce qu'elle nous enseigne. Amen. C'est pas tout. On continue avec Job. Il ne se contente pas vis-à-vis de la misère et de la souffrance de soulager et d'investir sa personne sur le plan matériel. Il prend à cœur le cœur des gens et leur âme. Il n'y a pas que le fait d'être nu et de manquer de nourriture. Il y a aussi les larmes. Il y a aussi la souffrance intérieure. Et on voit un homme ici qui encourage les autres, qui prend le temps de le faire, qui s'y investit. Et il dit, ma parole était pour tous une bienfaisante rosée. Ils comptaient sur moi comme sur la pluie. Ils ouvraient la bouche comme pour une pluie de printemps. Je leur souriais quand ils perdaient courage et l'on ne pouvait chasser la sérénité de mon front. J'aimais à aller vers eux. Ça, c'est important. J'aimais à aller vers eux. Voilà. C'est vraiment, c'est quelqu'un qui a à cœur d'encourager ceux qui sont découragés, de soutenir ceux qui sont défaillants, de relever, de sourire à celui qui manque d'espoir. Il se tenait proche de l'âme chancelante. Je m'asseyais à leur tête, j'étais comme un roi au milieu d'une troupe, comme un consolateur auprès des affligés. Il était là avec des paroles d'encouragement, avec un sourire, avec une confiance communicative pour redonner espoir. Il ne passait pas à côté des âmes chancelantes sans s'arrêter. Amen. Bel homme, hein? On continue. Un homme qui s'engage pour la justice sociale. Il dit, je sauvais le pauvre qui implorait du secours et l'orphelin qui manquait d'appui. Là, on n'est pas sur le fait juste de, comment dire, de la générosité, de la charité, je donne de l'argent à celui qui en manque. On est vraiment dans la défense de celui qui manque d'un appui, d'un soutien, d'un avocat, de quelqu'un qui prend son parti. Il continue en disant, la bénédiction du malheureux venait sur moi, je remplissais de joie le cœur de la veuve, je me revêtis de la justice et je lui servais de vêtements, j'avais ma droiture au manteau et pour turban, j'étais l'œil de la veuve et le pied du boiteux, j'étais le père des misérables, j'examinais la cause de l'inconnu, je brisais la mâchoire de l'injuste. On voit vraiment la défense, hein. Il s'engage pour la justice sociale. Je brisais la mâchoire de l'injuste et j'arrachais de ses dents la proie. Voilà. Eh bien oui, on est dans un monde où les droits sont bafoués, où on exploite, ou ceci ou cela. Eh bien, Job luttait pour de la droiture et de la justice contre l'exploitation des plus faibles. On avance, hein, pour son temps. On va le voir à la diapo suivante. Parce que c'est la seule fois, quasiment, dans toute la Bible, peut-être une occurrence dans le Nouveau Testament, mais où l'on voit parler du droit des esclaves, ou du serviteur. C'est un concept, un esclave, un serviteur n'avait pas de droit, c'est tout. Il était un objet, et le maître en faisait ce qu'il voulait. Eh bien, Job ne se contentait pas de s'engager pour la justice sociale autour de lui, il commençait par la mettre en pratique dans sa propre société, dans sa propre entreprise. Il dit, si j'ai méprisé le droit de mon serviteur ou de mon servant lorsqu'ils étaient en contestation avec moi. Oui, il arrive qu'on dise, dis donc patron, là, c'est pas normal, j'ai pas reçu ça, et moi, voilà quoi. Bon. Vous connaissez les manifs, vous connaissez les syndicats, vous... Hein? Je pense que là, ils avaient monté un syndicat, les serviteurs de Job, parce qu'ils savaient qu'ils avaient un patron qui écoutait les syndicats. Hein? Et donc, il y a une contestation, et Job dit, ben, je n'ai jamais... Lorsqu'il y avait une contestation, peut-être... voilà, une situation un peu litigieuse où je suis passé à côté d'un truc. Il venait dire, eh, oh, dis donc, c'est pas normal, Job. Eh bien, il ne méprisait pas le droit de son serviteur, de sa servante. Et c'est pour ça que je marque, il rectifie le tir si nécessaire. Eh oui, dans une entreprise, on prend une telle décision, on ne s'aperçoit pas toujours que ça a des conséquences et qu'il y a quelqu'un qui en train. Ah ben mince, ah, j'avais pas pensé à ça. Ben écoute, il n'y a pas de problème, je rectifie. Je rectifie le tir. Job était quelqu'un qui, en tant que patron, il refusait l'abus. Alors l'abus, c'est le verset suivant qui en parle. Si je levais la main contre l'orphelin parce que je me sentais un appui dans les juges. Vous voyez, on sent qu'on est en position de force pour obtenir de quelqu'un ce qu'on devrait normalement perdre si les juges étaient impartiaux. Mais là, on sent bien que la loi, on va réussir à la tourner de notre côté. Les juges, on est fort et on va utiliser ça pour abuser. Abus de faiblesse, parce que soi-même, on a des appuis. C'est ça, le monde des puissants. Et ben Job a dit non. Moi, je me suis toujours refusé à user de ces stratégies, de ces procédés. Et donc, il refuse l'abus. Un homme qui refuse l'abus et l'exploitation d'autrui. Et qui, dans sa propre entreprise, son propre monde, sa propre maison, rectifie le tir si nécessaire. Est-ce que nous, parfois, on est un peu abusif? On profite un peu des situations? Est-ce que parfois, nous n'écoutons pas les revendications? Il y a des revendications qui sont là, et ça peut être un simple père de famille. Moi, je me souviens, quand j'étais jeune, mon frère, il y avait un litige avec mon neveu. Puis, un jour, mon neveu dit à son père, « Mais pourquoi tu fais ça ?» Enfin, à chaque fois, mon frère disait à mon neveu, je crois que c'était les coudes sur la table. C'était une bêtise. Hein. Mets pas tes coudes sur la table. Là, mon frère se fâchait tout rouge. Il avait les coudes sur la table. Et puis une fois, mon frère a les coudes sur la table. Mon neveu lui dit, pourquoi t'as les coudes sur la table? Et mon frère qui est haut. Parce que ici, c'est moi le père. Ok. Oui, ici, c'est moi le patron. Je fais ce que je veux. Si j'ai des coudes sur la table, j'ai des coudes sur la table. Toi, en tout cas, tu ne les mets pas. C'est tout comme ça. Alors, ça fait longtemps, je pense que mon père a rectifié le tir. Mais, vous voyez, c'est ça. Le droit, je méprise le droit. Quand on est en contestation, il y a des revendications. Ça commence dans la cellule familiale. On passe à la diapo suivante. Il n'en reste plus que deux. Et on terminera. Un homme qui n'a pas de joie maligne quand ceux qui lui causent du tort sont atteints. Donc on a vu la manière de gérer son entreprise, son business, à Job, d'être envers les malheureux, les indigents, etc. Et de défendre la justice sociale. Mais évidemment, vous avez toujours des concurrents, vous avez toujours des ennemis, vous avez toujours des gens qui veulent vous... vous tromper, vous dérober, vous manipuler, etc. C'est la loi, c'est le capitalisme, c'est comme ça. C'est la jungle ou le monde des requins. Et donc, parfois, il y a des situations où on dit, mais lui, vraiment, alors là, on emploie un mot grossier, basé sur une racine du postérieur. Eh bien oui, il y a des gens vraiment pas bons. Hein. Eh bien Job n'avait pas cette joie maligne le jour où il chutait. Le jour où le malheur, il avait un revers Le verset dit, si j'étais joyeux du malheur de mon ennemi, si j'ai sauté d'allégresse quand les revers l'ont atteint, je fais la fête, ça y est, il est à terre. Le Seigneur m'a écouté, le Seigneur m'a délivré, youpi, je saute d'allégresse. Eh ben non. Il n'a pas cette joie mauvaise, vous voyez, même face à son pire ennemi. Et c'est là où il rajoute, moi qui n'ai pas permis à ma langue de pécher de demander sa mort avec imprécation, une prière pure. On passe à la dernière qui est assez originale. Et les paroles de Job se finissent là-dessus. Hein, c'est vraiment le dernier verset dans ce beau chapitre 31. Un homme qui respecte la nature et n'exploite pas à outrance ses ressources. Ça nous fait penser à l'écologie, à la terre, à la gestion saine de la terre et de la nature. Et en tant qu'exploitant agricole, Job pouvait très bien abuser des terres, pouvait y mettre des produits chimiques qui, à la fin, finalement, allaient, comme il dit, les sillons versent des larmes. Si ma terre crie contre moi, que ces sillons versent des larmes. Si j'ai mangé le produit sans l'avoir payé, que j'ai attristé l'âme de ces anciens maîtres. Voilà, c'est vraiment cette idée de respecter ce que Dieu a fait dans la nature, notre terre. Et évidemment, toujours dans un souci d'enrichissement, hein, de ne pas exploiter et exploiter à outrance les ressources au mépris des conséquences et la terre pleure, les sillons pleurent. Et peut-être les anciens, hein, les vieux de la vieille qui respectaient tout ça, ben, s'ils voyaient comment on fait aujourd'hui, ils se retourneraient dans leur tombe, comme on dit. C'est le sens de ce qui est là. Et qu'en est-il de notre gestion de la planète, de la Terre, de nos ressources, de tout ça? Est-ce que aussi on est dans cette idée de ben, j'exploite la terre, puis je tire le max que je peux, et qu'importe. Job avait aussi ce respect de Dieu qui s'appliquait sur la terre, sur la saine écologie, parce que Dieu a créé la terre et il respecte l'œuvre de Dieu et il ne fait pas passer l'enrichissement et plus de récoltes et davantage et plus avance. Un aspect surprenant, mais qui termine le livre, les paroles de Job. Alors, la diapo suivante fait un petit récapitulatif de tout ça. Il y a un paquet quand même. Hein. Quand on dit Job était un homme droit, intègre, et Dieu dit, il n'y a pas un gars comme lui sur la terre. Eh bien, je crois que ça mérite vraiment de faire le tour, de faire ce tour de l'homme que Job était, pour qu'on puisse aussi l'observer dans cette droiture et l'imiter. Parce que si Dieu l'a mis à l'honneur, c'est pas pour rien. Et il y a vraiment des aspects ici presque qu'on n'a nulle part ailleurs. Un homme qui choisit la volonté de Dieu avant la sienne, qui prie dans la paix, qui écoute sa conscience, qui ne fait pas de mal, qui ne prend pas les épreuves et les revers de fortune comme une excuse pour se relâcher spirituellement et pécher. Un homme qui fait connaître Dieu dans son foyer, qui parle au cœur des siens, qui refuse de mentir, de voler, de tricher, qui se tient loin de l'amour de l'argent, qui n'est pas à manger à tous les râteliers, les porte-bonheurs, les superstitions, ceci, cela, et droit avec Dieu. Majeur, un homme qui a résolu très fermement de vivre la pureté sexuelle même dans ses pensées, et vous trouverez peu de textes semblables à celui-là dans toute la parole. Un homme qui prend ses responsabilités, prend soin, un homme qui pratique l'hospitalité, qui est sensible à la misère, qui met la main à la poche, qui investit même de sa personne, qui encourage les autres, qui prend le temps de le faire, qui s'engage pour la justice sociale, qui refuse l'abus, l'exploitation, qui rectifie le tir, même quand il y a des choses qui ne sont pas forcément équilibrées. Et bien, il donne raison à ceux qui contestent, si c'est justifié. Il n'y a pas cette voie maligne et puis qui respecte la terre. Voilà un petit panorama. J'ai trouvé dommage de n'aborder dans le livre de Job que les aspects relatifs vraiment à son cheminement vis-à-vis de la souffrance, parce que je crois que ça vaut vraiment la peine de s'arrêter sur tous ces détails qui font dire à Dieu pas un gars comme lui sur la terre. Prions. Seigneur, on veut te remercier pour cet exemple d'un homme qui te craignait, qui t'aimait, qui te connaissait et qui avait mis en pratique dans sa vie toutes les choses qu'il avait pu comprendre parce qu'il avait décidé de faire plier sa volonté propre à ta volonté. Ta volonté avant la sienne. Merci pour les tout l'autre, Seigneur.